Topo 7. Jésus ressuscité rencontre les disciples d'Emmaüs. Dans une dizaine de jours, nous entrerons dans le temps pascal. Sans vouloir jouer au prophète, c'est durant le temps pascal que nous sortirons du confinement et que cessera cette heure pour Dieu qui nous réunit par la prière chaque jour, vous dans votre coin, prière écoutant ma voix, moi devant mon ordinateur, faisant passer vos visages dans mon esprit au fur et à mesure que j'écris. Alors j'anticipe. J'anticipe parce qu'il y a certains récits de rencontres avec le ressuscité dont je serais frustré de ne pas pouvoir partager la contemplation avec vous. Je prends donc les devants et vous invite à prendre la route avec Cléophas, l'un des deux disciples d'Emmaüs, puisque vous le savez maintenant. L'autre disciple que Luc se garde bien de nommer, c'est vous et moi, c'est chacun de nous. Mettons-nous donc en route avec Cléophas et accueillons Jésus qui vient nous rejoindre sur la route de nos existences. Nous sommes au chapitre 24 de Luc 13, 35. Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs à 2 heures de marche de Jérusalem et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth ?» Cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Jésus leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Nous sommes tellement habitués à utiliser ce récit en catéchèse pour parler de la messe, avec d'une part la table de la parole, correspondant à la première partie du texte, le commentaire que Jésus fait de l'Écriture pour les deux disciples, et d'autre part la table de l'Eucharistie, avec Jésus dans l'auberge, rompant le pain et partageant celui-ci avec ses disciples. Nous sommes tellement habitués à utiliser ce récit pour parler de la messe que nous en oublions qu'il est possible de le lire aussi comme une description de la vie spirituelle. Eh bien, en ce temps de confinement où justement nous n'avons plus accès à l'Eucharistie, permettez-moi de relire avec vous ce récit sous cet angle de la vie spirituelle, c'est-à-dire de l'amitié avec Jésus, du compagnonnage avec le Seigneur. Et je constate d'abord que Jésus nous rejoint. Ça n'est pas d'abord moi qui rejoins Jésus, mais c'est lui qui me rejoint et il me rejoint sur la route sur laquelle je me trouve, quelle que soit cette route. Jésus n'avait-il pas laissé comme consigne à ses apôtres de rester à Jérusalem? Les deux disciples d'Emmaüs n'en ont pas tenu compte et ont pris un autre chemin, celui d'Emmaüs. Or Jésus ne leur en tient pas rigueur. Puisqu'ils sont sur ce chemin-là, ce chemin de traverse, c'est là qu'il les rejoint. Imaginons un peu la scène. Les disciples marchent depuis déjà un certain temps, conversant, et Jésus arrive, par derrière, et il presse le pas pour pouvoir rattraper les deux hommes. Puis il adapte son rythme à ceux-ci afin de pouvoir cheminer avec eux. Quelle merveille! Telle est l'attitude du Seigneur avec chacun de nous, frères et sœurs. Jésus nous rejoint là où nous sommes, quel que soit le chemin de travers sur lequel nous nous sommes engagés. Et Jésus se presse pour se mettre à notre niveau, puis s'adapte à notre rythme pour rester avec nous. Si je n'ai que 5 minutes à lui offrir de ma journée, il prend ce que je lui donne et s'adapte à moi. Quelle merveille! Une fois le contact établi, Jésus commence par écouter. Écouter en profondeur, écouter longuement. Il n'écoute pas simplement les faits qui lui sont rapportés, mais aussi les émotions exprimées. La déception, nous qui espérions que ça serait le Messie. L'incompréhension, des femmes nous ont remplis de stupeur disant qu'il est vivant. Il rumine, les disciples d'Emmaüs. Clairement, ils ne savent plus où ils en sont. Et bien souvent, comme eux, je tourne en rond. Je me complais dans la comptabilité des manques de preuves qui excusent objectivement mon manque de foi. Avec eux, je tourne le dos à Jérusalem, je marche vers l'ouest, vers le soleil couchant, symbole de clap de faim. Et je me lamente. N'y a-t-il donc personne sur qui l'on puisse compter? Cette épidémie n'en finira-t-elle donc jamais? Jésus sait que sa parole ne sera pleinement accueillie que dans un cœur disponible. Alors il commence par écouter, longuement, pour laisser ces deux hommes déposer tout ce qui les préoccupe. Ainsi de notre prière d'oraison, qui bien souvent commence de la même manière. C'est d'abord moi qui parle, moi qui dis à Jésus tout ce qui m'habite, jusqu'à ce que, d'épuisement, je finisse par me taire et me rendre disponible à l'écouter en profondeur. Que votre cœur est lent à croire. Il y a évidemment une pointe de déception dans cette réaction de Jésus, mais pas une déception qui paralyse, une déception qui conduit à l'action. Et Jésus de reprendre toute l'Écriture depuis Moïse jusqu'aux prophètes pour leur expliquer de nouveau que tout se passe comme cela devait se passer. J'imagine le nombre de fois où Jésus s'est penché sur moi en me disant « Maximilien, que ton cœur est lent à croire. » Et lui de reprendre pour moi de nouveau toute l'histoire du salut, non seulement celle racontée dans la Bible, mais aussi l'histoire du salut racontée par ma propre vie. Mais voilà qu'arrive le bout du chemin. Le bout du chemin, c'est le temps de la décision. Tant que le chemin défile, il n'y a pas de question à se poser, il s'agit de marcher. Lorsqu'arrive le bout du chemin, alors il faut s'engager, choisir. Jésus nous raconte Luc, « Fais semblant d'aller plus loin. » Quelle merveilleuse délicatesse de la part de Jésus, qui ne veut jamais, jamais, au grand jamais, s'imposer dans nos vies. Il s'offre, puis se retire si son offrande n'est pas accueillie. Il est comme le raconte le livre de l'Apocalypse, celui qui frappe à la porte et qui attend avec anxiété qu'on veuille bien lui ouvrir. Ainsi, avec les disciples d'Emmaüs, fait-il semblant d'aller plus loin pour laisser à ceux-ci la liberté, ou non, de l'accueillir chez eux. En lui demandant de rester avec eux, les disciples réalisent sans le savoir le désir profond de Jésus, exprimé au chapitre 15 de l'évangile de Jean. « Demeurez en moi, demeurez avec moi, comme je désire demeurer avec vous, et comme je demeure dans le Père, et que le Père demeure en moi. » Alors leurs yeux s'ouvrirent. Que de temps il en aura fallu à ces deux disciples pour reconnaître Jésus marchant avec eux. Que de temps il nous faut à nous aussi pour reconnaître Jésus marchant à nos côtés sur les chemins de nos vies. Vous trouverez en même temps que cette méditation, ce beau poème des pas sur le sable, Je vous invite à le relire, tranquillement, en faisant mémoire de votre propre vie. Frères et sœurs, si nous avons, comme ses disciples, tant de difficultés à reconnaître celui qui marche à nos côtés, ne serait-ce pas parce que nous avons une fausse image de Dieu, une image figée de Dieu? Ne l'avons-nous pas enfermé dans une image qui n'est pas la sienne? Pour les libérer, Cléophas et l'autre disciple qui marche à côté de leur pompe, de l'image qu'ils ont de lui, Jésus a commencé par les plonger dans les Écritures. C'est d'abord par la lecture et la méditation de la Bible que je me laisse instruire par le Seigneur et que se précise peu à peu la véritable image de Dieu. En ce sens, nous pouvons dire que ce temps de confinement est un temps béni, puisque vous êtes nombreux à vous plonger dans la lecture priante de la Bible, ce que, soyons honnêtes, vous n'auriez probablement pas fait en temps normal. Mais cela n'a pas suffi. Cette catéchèse faite par Jésus n'a pas suffi. Il a fallu que Jésus conduise ses deux disciples de la tête au cœur pour qu'ils le reconnaissent enfin. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ce n'est qu'au moment où Jésus reproduit ce geste du partage du pain, auquel les dix disciples avaient participé quelques jours auparavant, qu'enfin les écailles de leurs yeux sont tombées. Lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous suivons ce mouvement de la tête au cœur, depuis la méditation de la parole de Dieu jusqu'au partage du pain qui touche au plus existentiel, puisqu'il nous nourrit et donc nous donne la vie. C'est dans l'Eucharistie que nous découvrons le vrai visage de Dieu, si petit, si humble, tellement déconcertant. Frères et sœurs, que ce temps de privation d'Eucharistie fasse grandir notre désir de communier et en même temps le purifie. Alors nous pourrons retourner vers Jérusalem le cœur tout brûlant de cette découverte que nous aurons faite, que Dieu n'a jamais cessé d'être là, à nos côtés, sur ce cheminement du confinement. Alors nous pourrons retourner à l'église Notre-Dame et communier de nouveau avec ce cœur tout brûlant. Bon temps d'oraison à chacun et à chacune.